Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la poignée de main entre Donald Trump et le coréen Kim Jong-un. « Mon ami Kim », écrit Trump dans un tweet. Le sommet se tient à Hanoï, Vietnam. Au-delà des images, question de fond, la Corée va-t-elle vraiment renoncer à l'arme nucléaire? Nous retrouvons Dominique André dans un instant. Cette journée est cruciale pour le président américain à Washington, en direct à la télévision tout à l'heure. Son ancien avocat doit livrer un témoignage accablant pour lui. La circulation différenciée en place en région parisienne et à Lille aujourd'hui. Il faut une vignette 0 à 3 pour circuler. Est-ce plus ou moins efficace que la circulation alternée en fonction des plaques d'immatriculation? Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Bruno.
On se posera la question avec vous. Un élément de réponse déjà.
Oui, je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, seules quelques dizaines de milliers de véhicules sont interdits. C'est peu par rapport aux 3 millions de voitures qui circulent en région parisienne.
Les détails tout à l'heure. Opération inamicale et surprenante. Le commentaire à Bercy après l'entrée surprise des Néerlandais au capital d'Air France KLM, l'État néerlandais. Curieuse histoire au carrefour de l'économie, de la politique et de la diplomatie. Comment interpréter cela? Notre invité est l'économiste Loïc Tribault-Laspillière. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, comment ça se passe ce mois de juin, Sébastien?
On y croirait presque en regardant le ciel bleu et les thermomètres, mais nous sommes bien en février. Et pour un mois de février, on va connaître un après-midi historique puisque de nombreux records vont tomber. Ça pourrait être le top 3 d'ailleurs cet après-midi des après-midi les plus chauds pour un mois de février. Les maximales affichent
le suspense,
18
c'est insoutenable.
À 26 degrés. Pour l'instant, on ne sait pas encore à quelle place.
D'accord.
Mais effectivement, ce sera dans le top 3. Les maximales seront comprises entre 18 et 26 degrés avec jusqu'à 28 degrés près des Pyrénées.
Ces températures exceptionnelles, avantages, inconvénients. Voici un agriculteur qui est près de Lunéville et d'abord une vacancière au Sable d'Olonne.
Pieds nus dans le sable. Devant nous, les rochers, la plage, les Parisiens.
Vous voyez, regardez voir une parcelle de blé qui est dans la butte. Là. On a le tour qui est bien vert. Et puis au milieu où ça a mal poussé, ça commence à manquer d'eau.
Reportage avec cet agriculteur tout à l'heure. Ce sera après l'indispensable Eva Bétan et son conseil cinéma du mercredi. Jazanke, l'un des meilleurs cinéastes au monde. C'est Eva qui le dit et elle a l'épreuve. Le 13h, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
27 février 2019, Donald Trump va-t-il entrer un peu plus dans l'histoire? Et pour quelle raison? Tout à l'heure, devant une commission parlementaire à Washington, va témoigner son ancien avocat, un fidèle pendant de longues années avant la rupture. Michael Cohen devrait dévoiler les dessous peu flatteurs de la saga Trump. L'homme d'affaires, l'homme politique, mensonge, escroquerie, racisme. C'est en tout cas ce que croit savoir la presse américaine, Washington Post, New York Times. L'audience sera publique et télévisée comme celle de la commission Benalla en France. Trump et son équipe suivront cela de très près et très loin. En même temps, car le président américain est au Vietnam, là aussi peut-être pour écrire l'histoire. Deuxième rencontre en moins d'un an avec le dictateur coréen Kim Jong-un. Ça se passe donc à Hanoï, au Sofitel Legend Métropole. Bonjour Dominique André.
Bonjour Bruno.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter. La poignée de main a eu lieu il y a quelques minutes entre les deux.
Oui, absolument, c'est fait. Donald Trump et Kim Jong-un viennent de se serrer la main devant les caméras, installés dans un hôtel qui est un ancien palace dans l'ancien quartier colonial français. Le président américain et le dirigeant nord-coréen étaient plutôt souriants. Kim était vêtu d'un costume Mao strict. Ils ont prononcé quelques mots pendant 2 minutes devant les drapeaux américains et nord-coréens et se sont montrés plutôt optimistes. Donald Trump a dit qu'il espérait que le sommet de Hanoï sera égal ou mieux encore que le sommet historique à Singapour. Certains voudraient que les choses aillent plus vite, mais Donald Trump s'est dit satisfait. Kim Jong-un a répondu qu'il était certain de parvenir cette fois à de grands résultats, salués par tous.
Alors voilà pour la photo, les premières déclarations. Sur le fond, de quoi sera-t-il question lors de ce sommet, Dominique?
Alors, ce qui est sur la table, eh bien, c'est toujours le démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen en échange de l'abandon des sanctions économiques internationales, une pacification de la péninsule et une normalisation progressive des relations diplomatiques entre les deux États. Mais au-delà des négociations, on sait aussi que Donald Trump compte toujours sur sa capacité à persuader ses interlocuteurs. En ce moment, il est en train de discuter avec Kim en tête-à-tête. Ça devrait durer une vingtaine de minutes. Puis un dîner est prévu d'une heure et demie environ, a précisé la Maison-Blanche. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et le chef du cabinet de Donald Trump seront présents. Côté nord-coréen, Kim sera accompagné de son ministre des Affaires étrangères et de son homme de confiance, Kim Yong-chol, qui s'est déjà rendu à Washington et que les Américains connaissent donc déjà très bien.
Dominique André en direct d'Hanoï pour France Inter. Je ne sais pas si Donald Trump écrit l'histoire, en tout cas il la tweete. De ces dernières heures, on retient aussi ce message où le président américain promet un avenir génial, radieux à la Corée du Nord si elle renonce à l'arme nucléaire. Et il parle de Kim Jong-un, dictateur d'un pays communiste, comme son ami. L'histoire s'écrit aussi en Europe en ce début 2019. La Grande-Bretagne va-t-elle bel et bien quitter l'Union européenne? C'est dans un peu plus d'un mois, en principe 29 mars. Il y a du report dans l'air concernant le Brexit. Faut-il prolonger les discussions avec Bruxelles? Les députés britanniques se prononceront ce soir. Qu'en dit le négociateur européen Michel Barnier? Un report du Brexit? Il ne dit pas non, mais...
Pourquoi faire? On n'a pas besoin de beaucoup plus de temps, on a besoin de décisions. On a besoin que le Parlement britannique prenne ses responsabilités et que ceux qui veulent le Brexit, qui ont choisi de quitter l'Union européenne, assument. Et s'ils veulent vraiment quitter l'Union européenne de manière ordonnée, alors c'est ce traité, c'est pas un autre.
Ce traité de 600 pages auquel le négociateur européen n'a pas l'intention de toucher, il l'a répété ce matin au micro de nos confrères de France Info. Ce qui peut être amélioré, dit Michel Barnier, c'est la déclaration politique qui accompagne le traité. Brexit, faut-il reporter la date? Réponse allemande, oui, si le Royaume-Uni le demande, mais il devra apporter alors quelque chose de neuf dans les discussions. Crise ouverte encore au Venezuela, plus d'un mois après les premiers coups de boutoir de son opposant Juan Guaido, Nicolas Maduro est toujours au pouvoir. Le Venezuela, ses immenses réserves de pétrole et d'or, d'où l'intérêt mondial pour ce pays. Le Venezuela et sa crise économique épouvantable. Voyez à quoi en sont réduits certains habitants. Envoyé spécial de France Inter à Caracas, Benjamin Illy.
En voiture. Alors on est dans un quartier qui s'appelle Los Palos Grandes à Caracas, un quartier de classe moyenne. Mais avec beaucoup de misère aussi. Comment t'es yama, señor?
En fait.
En la basura, vous mangez ce que vous trouvez dans les poubelles. Il faut que l'aide humanitaire arrive, dit José, 22 ans. Moi, je pourrais voter pour le gouvernement actuel, mais d'abord, il faut qu'il change des choses. Je demande au président d'ouvrir les yeux, car encore une fois, la situation est critique. Lui qui dit tout le temps qu'il aime tellement les Vénézuéliens, qu'il aime son pays, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous.
Para nosotros.
Une pharmacie.
Mais vraiment vide.
Notre traductrice, il reste quoi comme médicament? De l'ibuprofène, 20 000 bolivars?
8 dollars.
Et le salaire minimum, il est à combien?
6 dollars.
On va rencontrer un homme qui s'appelle Nervi, il a 40 ans.
Nervi est venezuelien.
Il garde des voitures de gens plus riches que lui. Vous avez maigri ces dernières années? Il a perdu 10 à 12 kilos. Je voudrais que ça change, reconnaît Nervi. Donc il veut une intervention très vite. Est-ce que vous avez confiance en Donald Trump? Il est prêt à intervenir?
Non.
Lui, il a toujours été riche, il n'a manqué de rien. Tout est politique pour lui, tout est dans son intérêt, tout est pour l'argent. À Caracas, Jérémy Tulle, Benjamin Illy, France Inter.
Et ces gens qui mangent dans les poubelles, un journaliste américain a posé une question à leur sujet au président vénézuélien Maduro. Eh bien, il a été arrêté en pleine interview. C'était l'histoire du monde ce matin d'Anthony Bélanger sur France Inter. Vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr, sur notre site également. Les raisons du conflit Inde-Pakistan au Cachemire. Autre crise sur laquelle sont penchés les diplomates en ce moment. Pékin appelle une nouvelle fois à la retenue. Washington a évité toute escalade entre les deux pays qui sont puissances nucléaires. Inde-Pakistan, un avion abattu de chaque côté ces dernières heures, si l'on en croit l'Inde. Le Pakistan va fermer son espace aérien. Plus aucun avion n'atterrit ou ne décolle.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Circulation différenciée derrière cette expression techno. Cette réalité très concrète, toutes les voitures n'ont pas le droit de sortir du garage aujourd'hui en région parisienne, à l'intérieur du grand périph que forme l'autoroute A86 et à Lille et dans sa proche banlieue, cela pour lutter contre la pollution aux particules fines. Autorisées à sortir seulement les voitures qui ont des vignettes de 0 à 3, les vignettes critères. Célia Kiyré, comme promis, vous nous avez rejoint. Efficace ou pas ce système? On voit ça dans un instant avec vous. D'abord, reportage à Paris, place d'Italie, 13e arrondissement, en précisant que si vous roulez avec une voiture interdite, l'amende est de 68 euros, 135 pour les poids lourds. Quelques échanges au micro de Yann Gallic entre la maréchaussée et les contrevenants.
Monsieur, vous êtes au courant qu'il y a de la circulation différenciée aujourd'hui?
Vous êtes un critère 4, vous avez une pastille critère 4.
Vous n'avez pas le droit de circuler aujourd'hui dans Paris?
Je suis artisan.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis plombier.
Alors, je regarde les mesures de dérogation.
Je suis le commandant de police Gilles Gravet, chef de la compagnie de police routière de la direction de l'ordre public et de la circulation.
Là, le monsieur, vous avez décidé finalement de ne pas le verbaliser.
C'est un artisan. Son véhicule, c'est son véhicule pour son travail. C'est un plombier qui se rend sur un chantier. Il habite Paris. On est obligé de faire preuve de discernement. Je prends le risque de ne pas le verbaliser, de lui dire d'aller travailler avec un critère 4, malgré la pollution.
Bonjour madame, je demande tous les contacts s'il vous plaît, me présenter le permis de conduire, l'assurance et la carte grise. Aujourd'hui c'est une opération pic pollution, est-ce que vous avez la vignette en critère ?
Non.
D'accord, parce que quand vous circulez dans Paris, vous êtes censé l'avoir, donc c'est une verbalisation.
Vous n'étiez pas au courant qu'il fallait mettre la vignette aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Bah, vu qu'en fait à la base je suis en formation juste une semaine sur Paris, je ne savais pas du tout qu'il fallait une vignette pour circuler dans Paris.
Et vous savez que vous risquez quand même une amende ?
Bah, apparemment oui, je viens de la prendre là. Si c'est pour l'environnement, c'est pas grave.
Alors, Célia Kigré, efficace ou pas la vignette, la circulation différenciée, à ne pas confondre avec la circulation alternée, ça c'est quand les plaques d'immatriculation pair ou impair ont le droit de rouler. Alors, il y a un problème d'information, manifestement, on le voit. Est-ce qu'il y a plus ou moins de voitures au garage qu'en cas de circulation alternée ?
Nettement moins, hein. Il y a bien un écart entre la circulation différenciée et la circulation alternée. En fait, ce sont seulement les véhicules les plus polluants qui sont interdits à Paris et à Lille. Ce sont les critères 5, déjà interdits du lundi au vendredi dans Paris intramuros. Et les critères 4, c'est-à-dire les vieux diesels immatriculés avant 2006 et les véhicules essence qui datent d'avant 1997. Finalement, cela concerne surtout les très vieilles voitures. Seulement quelques dizaines de milliers sont interdites, selon Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris. C'est bien peu par rapport aux 3 millions de voitures qui roulent à l'intérieur de l'A86, alors que la circulation alternée, en fonction du numéro de la plaque, oblige potentiellement la moitié des voitures à rester au garage.
Alors comment aller plus loin ? Est-ce qu'il faut envisager d'interdire les vignettes critères 3.
La question se pose. Anne Hidalgo ne veut plus aucune voiture diesel dans Paris en 2024, plus aucune essence en 2030. Déjà à partir du 1er juillet prochain, les véhicules critères 4, essentiellement des diesels d'avant 2006, seront interdits dans Paris. Et dès 2022, les critères 3 seront bien interdits. Cela concerne les diesels d'avant 2010, mais aussi des voitures à essence immatriculées entre 1997 et 2005. Ils pourraient donc aussi être interdits pendant des pics de pollution.
Alors deux questions à propos de Lille et Paris. Hein. Qui ordonne la circulation différenciée et quand ? Il y a une controverse à ce sujet.
C'est la préfecture de police qui prend cette décision en fonction des niveaux de pollution et ça peut être anticipé à la demande des maires. Mais ces mesures ne sont pas toujours prises vite. La maire de Paris voudrait que ça soit automatique. Pour elle, l'État doit prévoir des mesures de restriction de circulation dès que les experts annoncent un pic de pollution. Ce matin, d'ailleurs, François de Rugy sur France Inter s'est montré ouvert à un débat sur ces seuils de déclenchement. Pour lui, ce n'est pas non plus la peine d'attendre un pic pour prendre des mesures.
Le paradoxe du diesel régulièrement accusé de polluer. Pourtant, certains diesels sont classés critère 1. Est-ce qu'il faut changer les choses ?
Oui, alors certains diesels sont classés critère 1 parce que ce sont de nouveaux modèles, même si ce sont parfois des voitures puissantes type SUV. Et sur ce sujet, il y a un débat au sein du gouvernement. Le ministère de l'économie défend le diesel pour des raisons industrielles. 15 000 emplois sont en jeu. Bruno Le Maire souhaiterait donc accorder une vignette critère 1 aux diesels les plus récents, alors qu'Elisabeth Borne ou François de Rugy s'y opposent.
Des voitures aux avions et cette histoire surprenante au carrefour de l'économie, de la politique et de la diplomatie. Le gouvernement néerlandais qui monte par surprise en mode raid au capital d'Air France KLM. Bonjour Loïc Tribault-Laspierre.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialiste du transport aérien, directeur du Centre d'études et de prospectives stratégiques. Nous sommes curieux d'avoir vos lumières sur cette histoire. Avant cela, si vous le permettez, les dernières informations avec l'un de nos correspondants dans le Benelux, Pierre Benazé. Bonjour Pierre.
Bonjour, non.
Conseil d'administration d'Air France KLM réuni en cette mi-journée. Depuis le 20 février, au fond, le gouvernement néerlandais achète à tour de bras des actions de sa compagnie nationale pour rééquilibrer sa position face à Paris au sein d'Air France KLM. Il faut dire, Pierre, que KLM, c'est important aux Pays-Bas, c'est l'un des 10 plus gros employeurs du pays.
Effectivement, et c'est la moitié des 35 millions de passagers annuels de l'aéroport de Schiphol, Amsterdam. L'État néerlandais avait jusqu'ici 5,9% des parts de KLM, et avec cet achat surprise d'actions, le gouvernement bataf détient désormais 12,68% de la holding Air France KLM. 680 millions d'euros ont été empruntés sur les marchés financiers. Le ministre des Finances, Wopke Hoekstra, annonce que l'opération n'est pas terminée. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 14% pour avoir une participation comparable aux 14,3% détenus soutenu par la France. Le gouvernement batave a décidé d'une implication directe, car selon le ministre des Finances néerlandais, les débats sur la gestion du groupe Air France KLM ont été, je cite, « difficiles », en particulier sur la reconduction de Peter Elbers à la tête de KLM. Dans un courrier adressé aux parlementaires néerlandais, Wopke Hoekstra affirme que la gouvernance du groupe était devenue moins équilibrée et que le rôle de KLM y avait perdu en importance. Le gouvernement néerlandais affirme par exemple, le ministre des Finances, n'a pas été suffisamment inclus dans les décisions de coopération avec les compagnies aériennes Delta ou China Eastern. Le gouvernement batave veut éviter un scénario catastrophe à la belge, référence à la faillite de la Sabena après sa fusion avec Swissair.
Merci Pierre Benazé. Loïc Tribault-Laspillière, est-ce que vous êtes surpris par la manière utilisée par les Pays-Bas ?
Eh bien écoutez, si nos autorités politiques et nos autorités administratives au plus haut niveau considèrent que c'est de la surprise, moi j'ai un grand problème. J'ai un grand problème, ça veut dire que les grands professionnels ne savent pas anticiper les réactions et les montées en puissance d'un État, surtout sur un dossier aussi sensible. Donc si effectivement ils ne sont pas au courant, ben j'ai un grave problème. J'ai un grave problème, de professionnalisme.
Autrement dit, la surprise, vous n'y croyez pas ?
Non, je n'y crois absolument pas. Ou alors, s'il y a vraiment de la surprise, ça prouve qu'effectivement, le dossier était mal suivi. Mais il est quand même assez étrange qu'un État, comme l'État néerlandais, décide de monter en puissance sur un objet de cette nature qui est Air France KLM, et qu'on découvre ceci tout à fait par hasard. C'est quand même assez surprenant.
Et quand au gouvernement français, Gérald Darmanin, ce matin par exemple, dit « les États doivent se mêler le moins possible de l'activité des économies », on est des entreprises, on est aussi dans une forme d'hypocrisie. Au fond, si les États sont au capital, c'est bien pour se mêler des entreprises.
Écoutez, bon, cette affirmation est intéressante, mais elle est totalement hors sol. Constatons, c'est que les États-Unis pratiquent effectivement un libéralisme à l'extérieur, mais qui dans le fond est totalement contrôlé. Regardons l'implication, notamment entre autres du gouvernement américain actuel, dans le développement de ces acteurs économiques. Si c'est pas, je dirais, l'activité de soutien, je ne sais pas ce que c'est. Alors regardez le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois, l'ensemble de son économie est aux mains de l'État chinois. On ne peut que constater ces dernières années, globalisation, mondialisation, la montée en puissance des acteurs publics pour développer et assurer la pérennité de leurs acteurs. Alors, avoir ce discours à contre-emploi ne me paraît absolument pas approprié.
Alors,
Deuxième point.
Oui. Allez-y.
Le secteur du transport aérien est un secteur hautement stratégique et hautement concurrentiel. Et on s'est aperçu ces dernières années l'intervention des États, que ce soit en Chine, que ce soit dans le Golfe, ou que ce soit même aux États-Unis, le Chapter 11, qui est une façon de soutenir indirectement ces compagnies, a été massivement appliqué. Donc, il serait, désuet de pratiquer un libéralisme qui me semble assez inapproprié, surtout dans le cadre de ce type d'activité économique.
Alors, si on revient strictement à Air France KLM, la première conséquence de cette histoire, c'est une action qui dévisse complètement à la Bourse de Paris, moins 13% ce matin. On se dit que il va y avoir de nouvelles turbulences pour cette compagnie qui en a déjà connu beaucoup.
Mais écoutez, cette compagnie, c'est Air France plus KLM. Donc ce sont deux acteurs qui effectivement, par subtilité, là il faut reconnaître toute l'anticipation de Jean-Cyril Spinetta, qui avait été à la manœuvre de ceci, l'ancien PDG, préserver les cultures, optimiser. Force est de reconnaître que ça marchait, ça créait, ça donnait du sens. Alors maintenant, constatons que Air France a décroché un petit peu ces dernières années, problèmes sociaux, changement de président, et finalement, on est tellement lisible soi-même qu'on s'étonne que les autres ne nous comprennent pas. Évidemment, il faudrait un peu cet exercice d'humilité. Il est légitime que nos amis néerlandais se posent des questions. Et l'arrivée du nouveau président est intéressante pour ça.
Ben Smith, il y a une autre question qui se pose, Loïc Tribault-Laspillière. Au fond, on a l'impression, on parle toujours d'Airbus comme d'un modèle absolu de coopération entre gouvernement et États européens, mais l'impression qu'aujourd'hui, la bonne entente entre les États dans des projets industriels est compliquée. Air France KLM en ce moment, les chantiers de Saint-Nazaire et Fincantieri, Alstom, Siemens, ça n'a pas pu aboutir. Il y a un problème de bonne entente des États européens sur les projets industriels.
Mais il y a surtout le problème de savoir ce que veulent les actionnaires. Et là, force est de reconnaître, on est dans des postures où les États disent, dans le fond, il faut qu'on soit présent, on est pour une impulsion politique, mais dans le fond, c'est un silence radio. Et dans le dossier, notamment Airbus, on peut pas dire que l'État français ait une vision, je dirais, totalement clairvoyante. Et on l'a vu dans ces dissensions entre Fabrice Brugier et Thomas Sanders, Là, ce qui est surprenant, c'est que l'État avait laissé pourrir une situation et était intervenu après coup. Donc, il est légitime dans un contexte de forte compétitivité, et on le voit à l'heure actuelle, que les États regardent, et on l'a souligné tout à l'heure, votre chroniqueur, le fait de ce que représentait économiquement KLM pour
les Pays-Bas. Oui.
Donc il est normal que l'État s'intéresse à ceci. Alors se pose après ça, est-ce que les États sont de bons gestionnaires et sont de bons anticipateurs? Là, c'est une autre question.
La question de l'État dans le domaine de l'industrie, elle se pose aussi dans une série de dossiers en ce moment à Ascoval, l'effondrerie du Poitou. C'est devenu un pont aux ânes de dire l'État est impuissant. De votre point de vue, quel rôle peut jouer l'État quand il y a comme ça une entreprise en difficulté? Quel rôle peut-il jouer?
Mais tout dépend de l'importance, je dirais, de l'entreprise en question, son impact en termes d'emploi sur le bassin d'emploi, et si elle a un intérêt stratégique. Parce que ceci ne sert à rien, je dirais, de remettre au pot de soutenir une activité dont on sait qu'elle sera déclinante et qu'elle disparaîtra. Mmh. Il y a des évolutions, il faut donc regarder cas par cas. Ce qui m'amène à souligner la chose suivante, il sera temps de revoir les règles, notamment de l'abus de position dominante ou de la concurrence qui peut être sclérosée au sein du ciel européen. L'Europe, et là c'est la vision qui est, à mon avis, rétrograde de la Commission, c'est de dire il faut tout simplement qu'il y ait compétitivité en Europe. C'est absurde. Mmh. La compétitivité se passe désormais au niveau global et mondial. La vision telle qu'elle est défendue est hors sol et date d'un temps très immémorial.
Merci Loïc Tribault-Laspierre d'avoir répondu à nos questions à propos notamment de cette histoire Air France KLM. La politique en bref, la taxe carbone n'est pas tout à fait enterrée. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, était ce matin l'invité de France Inter.
La taxe carbone, elle est en débat. Quelques critères simples. Moi, je dis, un, est-ce qu'on garde le même rythme? Je disais 3 centimes d'euros, on peut faire un, on peut faire deux, etc. Ça. Est-ce que l'argent, il va intégralement, l'argent récolté ainsi, il va intégralement vers des travaux d'isolation dans les logements, vers des changements de voitures, vers des investissements pour la transition écologique, pour les transports en commun, par exemple? Ça, c'est une demande que les Français nous ont faite massivement à l'automne dernier.
Mais
c'est un sujet compliqué, mais on ne peut pas non plus dire, d'un côté, il faut dépenser plus pour la transition écologique, et d'un autre côté, dire tout ce qui est recette, on l'abandonne.
François de Rugy, ce matin, sur France Inter. En bref, encore le directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Nantes, mis en examen pour trafic de stupéfiants. Il a été licencié. Et puis l'enquête pour viol qui visait l'entraîneur d'athlétisme Giscard Samba est classée sans suite. À 13h22, c'est l'heure de notre rendez-vous du mercredi avec Eva Bétan. Bonjour madame.
Bonjour.
Jia Zhangke, voilà celui que vous nous conseillez aujourd'hui, et son film Les Éternels. En une ligne, l'histoire, la province chinoise, une femme tombe amoureuse d'un chef de gang, je n'irai pas plus loin. Vous me dites que c'est le plus grand cinéaste chinois actuel, peut-être au monde. Pourquoi cela?
C'est un des plus grands cinéastes du monde parce qu'on a vu son travail sur 20 ans et c'est une chose extraordinaire.
Hors du commun.
À la fois dans la forme, parce qu'il a un vrai langage formel, et dans le fond de ce qu'il est en train de faire. Il fait une œuvre colossale. Il est en train d'enregistrer les mutations à marche forcée de la Chine vers la modernité, en se posant une question qui est: qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu? Si je devais donner un exemple pour ceux qui ne connaissent pas son cinéma, ce serait de voir le film Still Life, où il racontait une fiction qui se passait pendant la construction du barrage des Trois Gorges, barrage gigantesque qui allait engloutir des villes et des villages entiers. Et aujourd'hui, il se sert aussi de ces films passés comme une sorte de banque de données. Aujourd'hui, vous allez voir dans ce film quelques images d'avant, qui n'existe plus, de ce qui a été englouti. Donc Les Éternels, l'histoire débute en 2001 et ça va jusqu'en 2018. On peut voir ce film comme une synthèse, mais une synthèse temporaire, les changements continuent, ou alors comme une variation sur ces éternels thèmes, mais une variation très romanesque. Il y a du romanesque chez lui, mais c'est son film le plus romanesque. Vous l'avez dit, il y a un côté film noir, ça se passe dans une petite pègre locale, et une immense histoire d'amour. Cette femme qui est jouée par son épouse, qui est son actrice fétiche, qui est magnifique, Zhao Tao, elle va être en prison, et après, elle va vouloir absolument retrouver cet homme. Et on va voir aussi ce que le temps sur un couple, ce que sont que les rendez-vous vous manquez, ce que c'est aussi que l'usure et la fatigue, mais l'amour quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un classique de parler d'un pays en parlant de sa pègre, de ses marges. Oui. Et les différents, chaque pays a une idée de ce qu'est, a une culture, un imaginaire sur la pègre. Lui se réfère à une pègre ancestrale, à une pègre des contes et des légendes qui avait des valeurs. Écoutez Zhao Tao. Et ça aussi, ça s'est perdu.
Par exemple, ce qui est perdu dans ces 20 dernières années, c'est dans la culture de Tianhu. Tianhu, c'est le titre du film en chinois. Tianhu, qui a une traduction qui est la pègre, mais d'une façon plus large, c'est la société souterraine ou société parallèle. Il y a deux valeurs fondamentales. La première, c'est la loyauté. Et la seconde, c'est la droiture. Ce qu'on a perdu, ce sont ces valeurs millénaires pendant ces 20 dernières années.
Alors c'est bien Jazang qui est.
Oui, c'est
à Cannes que vous l'avez interviewé. En un tout petit mot, il vient d'être élu l'équivalent de nos députés. Il a été élu. Ça change quoi que ce soit ?
Écoutez,
à son cinéma, il s'est embourgeoisé ?
Non, il a été, en deux mots, pendant longtemps, ses films ont été quasi clandestins. Après, il est devenu un homme important. Mais même en 2015, alors qu'il était déjà un homme important, on lui reporte une partie nationaliste de la presse lui reprochait de faire des films qui montraient une image noire de la Chine. Et là, il veut être député, dit-il, pour pouvoir s'exprimer aussi. En tout cas, il est totalement fidèle aux valeurs de la pègre vis-à-vis de son cinéma, droiture et loyauté.
Les Éternels, Jazang Kay au cinéma cette semaine, chaudement recommandé par Eva Bettan. Je sais que vous attendez ça, le programme du foot, les quarts de finale de la Coupe de France. Rennes-Orléans, 18h30, Lyon-Caen à 21h. Nous en venons à la météo, aux températures exceptionnelles de ce mercredi. On entendra Sébastien Léas dans un instant. La météo et ses conséquences néfastes en partie. La crainte d'une nouvelle sécheresse du côté de certains agriculteurs. C'est le cas de celui-ci qui est installé à Croix-Mare, près de Lunéville, dans l'est du pays. Reportage Mohand Chibani.
Ah, j'ai rarement vu un mois de février comme ça.
En ce moment, Étienne Vulmain est tous les jours dans ses champs. Il observe avec inquiétude la pousse de ses semis.
Vous voyez, regardez voir une parcelle de blé qui est dans la butte. Là. C'est une parcelle qui a été implantée normalement. Et vous voyez, regardez voir le. On a le tour qui est bien vert. Et puis au milieu où ça a mal poussé, eh ben ça commence à manquer d'eau.
Étienne Vulmain cultive du colza et du maïs pour nourrir ses bêtes. Mais il craint que les rendements ne soient, comme l'an dernier, suffisants pour tenir jusqu'à la fin de l'année.
On vient de passer une année 2018 très exceptionnelle où on a eu un manque de pluie, un manque de fourrage, un manque de tout. Et là, on va commencer par pleurer pour la pluie parce que les pâtures ne repartent pas, rien ne repart pour l'instant.
Mais ce que l'agriculteur redoute le plus, c'est une nouvelle vague de froid. Ces cultures n'y résisteraient pas.
On est fin février, on ne sait pas le mois de mars de quoi il va devenir. Moi, j'ai vu une fois arriver de la neige et du froid au mois d'avril. Donc s'il y a de la neige, qu'il y a du froid, c'est moins grave. Mais s'il n'y a que du froid et rien pour couvrir, c'est un peu plus grave. Le froid brûle comme le soleil en été.
Mais Étienne Vulmain s'est fait une raison et accepte avec résignation les caprices de la nature contre lesquels, de toute façon, il ne peut rien faire.
C'est jouer au poker, quoi. Je pense qu'en agriculture, on est de grands joueurs.
Allez, on parle de pollution, on parle de menaces de sécheresse. Il n'y a pas que des conséquences négatives à ces très douces températures. Les vacanciers sont ravis. Illustration, propos de vacanciers sur la plage des Sables d'Olonne en Vendée. Marc Bertrand.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin.
Ouais,
rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Elle arrive, la météo avec Sébastien Léas. D'abord, est-ce qu'on a le reportage au Sable d'Olonne, les paroles de vacanciers ? On y va.
Bon, le soleil. Les premiers soleils de l'année. Hein, c'est pas mal.
C'est quoi votre prénom ?
Prune.
Alors
Devant nous, les rochers, la plage, les Parisiens dont je fais partie. Je suis hyper équipée, j'ai remis mon petit siège de plage, pieds nus dans le sable.
Vous avez le souvenir d'un mois de février comme ça ou pas ?
Non, jamais vu. 76 ans, jamais vu.
Moi, je me suis déjà baignée au mois de mars.
Et vous allez aller vous baigner, là ?
Je n'ai pas mon maillot.
Ouais, je vais les foutre dans l'eau un peu, là, tout à l'heure. Les doigts de pied, je parle. Hein.
La vie n'est pas trop dure. Hein.
À ce âge-là, il ne faut pas qu'elle soit dure. Sinon, on ne pourrait pas y arriver. Hein. C'est clair.
Mais non, elle n'est pas dure. La vie, elle est même douce cet après-midi, Sébastien Léas.
Cet après-midi, le ciel bleu reste vierge de nuages et le soleil domine sans partage sur l'ensemble du pays. Comme depuis plusieurs jours, les températures s'envolent, dépassant très souvent la barre du 20 degrés au nord comme au sud. Des records de douceur sont même attendus cet après-midi. Au niveau national, cet après-midi sera un des après-midi les plus chauds jamais observés pendant un mois de février. Les maximales seront généralement comprises entre 18 et 26 degrés avec des pointes jusqu'à 27 voire 28 degrés au pied des Pyrénées. Un changement de temps va intervenir demain avec le retour de nuages, s'accompagnant même d'averses sur la moitié nord. L'extrême sud-est gardera tout de même un temps ensoleillé et encore très doux.